4 €, 4 €, 4 €, 4 €.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bonjour, bonjour tout le monde. Allez, installez-vous, soyez les bienvenus à la table des bons vivants. Écoutez le menu, tiens, du citron de Menton, un dossier sur la pêche durable avec le chef Christopher Coutenceau, s'il vous plaît, et une brouillade d'oursin que nous partagerons avec la bonne vivante Chantal Goya. En voilà un joli menu. Journaliste et jeune maman, elle aime conjuguer l'éthique à la qualité dans nos assiettes. C'est Anne-Laure Femme. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour messieurs et bonjour à toutes et à tous.
Il y aura des nuggets au menu.
Et oui, un petit peu de poulet pour donner des ailes.
Mais des bons, vous entendrez. Responsable en chef de nos bouteilles et papa responsable, il est toujours de bons conseils quand il faut choisir. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour Anne-Laure, bonjour tout le monde. Et puis bah écoutez, les bouteilles sont prêtes.
Hein. Des bouteilles qui viennent
démarrer,
de loin, hein. Restez avec nous.
Très loin.
Elles viennent de très loin. Sans oublier la carte blanche de tonton Jean-Luc Petit-Renaud et le journal de la cuisine Marion Sauveur, journal de la cuisine bien entendu. Allez, c'est parti, sortons les couverts. Alors, avant d'aller au marché, une question essentielle, hein, vous le savez, pour se mettre en appétit, amis auditeurs et camarades de table, quel est votre goût de la semaine ? Honneur aux femmes, hier c'était la Saint-Valentin. Ça s'est bien passé, Anne-Laure Femme ?
Écoutez, j'en garde un souvenir peu mémorable.
Ah
mais...
bon ? Ah bon, dis donc.
Ah, mince, non, alors. La fête pas, voilà.
C'est vrai.
C'est
ah.
Bon, c'est la Saint-Valentin tous les jours, voyons,
voilà,
à la maison.
Ça c'est bien, ça c'est bien. Vous avez fait peur quand même.
Je sais.
Quel est votre goût de la semaine, Anne-Laure ?
Moi, c'est le goût du fromage frais maison. Parce que, voilà, aujourd'hui, on perd un petit peu de vue que le fromage, c'est un produit très simple. C'est 4 produits, et c'est du lait, des présures, du sel, des ferments. Et il y a un bouquin que je trouve génial, qui est aux éditions Erol, qui s'appelle « Je fais mes fromages », qui a été imaginé par Pierre Coulon, qui a la fabrique de fromage à Paris, la laiterie de Paris, et qui s'est associé à la journaliste Adèle de Sachy pour passer en revue des recettes maison de fromage, mais feta, faisselle, fromage
mais
frais.
Mais il faut une cave quand même pour affiner tout ça.
Ce qui est très bien fait dans ce bouquin, c'est que vous pouvez les faire chez vous dans votre petit appart avec un minimum de matériel. Il faut juste faire gaffe à l'hygiène et au choix du lait cru, bien sûr.
Et puis il faut aimer les odeurs de fromage permanentes dans l'appartement, alors ça veut
pas
dire.
Pas du tout, non fromage frais, ça sent divinement
ah,
bon.
Ah, c'est
voyons.
Que du frais, c'est
et
que
oui,
du frais.
Je
d'accord.
fais mes fromages aux éditions Erol, 16,90 €.
Eh bien, merci Anne-Laure.
Oui, bah, pas du vieux claquage qui pue.
Non, on n'est pas ambitieux à ce point-là.
Pas un vieux bricoulant. Olivier Pouls, votre goût de la semaine, cher ami.
Ben, une cuisson originale. J'étais chez des amis le week-end dernier à la campagne et on a cuit une courge butternut, c'est la saison. Hein.
Encore ouais.
On l'a cuite à la broche, figurez-vous.
Ah oui.
Ah, ouais, on a eu cette idée.
Avec
alors,
la peau
alors, on a enlevé la peau, on l'a coupée en tronçons assez réguliers. Entre chaque tronçon, on a intercalé des morceaux de jambon un peu gras. Voyez-vous,
ah oui,
manière
oui.
À donner à nourrir.
J'étais
un peu
inquiet,
notre
je pensais bah, que vous n'aviez mangé que du légume. Donc
vous plaisantez ou quoi ?
On s'inquiétait. Ouais.
Et ensuite, on a enfilé cette courge sur une broche et on l'a mise à tourner dans la cheminée.
Joli.
Eh bien, croyez-moi, c'était assez dingue. Parce que justement, le gras, bah, il vient nourrir la courge. Mmh. La courge, elle cuit tranquillement. Et puis après, 40 minutes comme ça de rotation sur elle-même,
belle
bien
idée.
Dorée.
Ouais.
Et c'était délicieux.
Thierry Schwartz fait ça en Alsace avec du céleri à Aubernais. Effectivement, plein de légumes comme ça rôtis
oui,
à la broche.
À la cheminée, ça marche
et,
très bien.
Et ça marche
on
très,
les
très
arrose
bien.
Régulièrement et puis c'est superbe.
Mon goût de la semaine, moi, c'est celui de la puntarelle. Vous
oh,
connaissez la puntarelle ?
Magnifique salade.
Hein, c'est celle qu'on appelle la chicorée asperge qui est très prisée en
très
Italie.
Très spectaculaire à l'œil.
Très spectaculaire. J'ai un ami qui cuisine très bien, qu'on peut citer d'ailleurs, qui est Eric Laven, qui est réalisateur de cinéma, qui est venu à cette table et qui nous a fait un joli dîner la semaine dernière. Une puntarelle en salade comme ça, avec une belle vinaigrette aux anchois et puis quelques copeaux de parmesan.
Parfait.
Et il y avait aussi du bon bacon frit grillé à l'intérieur. C'était magnifique. La puntarelle.
Bravissimo.
Oui, c'est bien la puntarelle.
Vous avez été très cochon ce week-end,
oui,
messieurs.
C'est vrai. C'est peut-être à cause de la Saint-Valentin, je ne sais pas. Alors, c'est l'heure d'aller au marché. Direction celui de la place Maubert à Paris, dans le 5e arrondissement. Il y a plusieurs façons, hein, de faire le marché. Scotcher à la liste des courses ou au petit bonheur la chance. Comment faites-vous votre tour de marché ? Réponse au micro de Julien Amat.
Je connais tout le monde depuis très longtemps.
Je commence toujours par les légumes, le plus lourd. Légumes, fruits. Alors là, j'ai acheté des carottes, des navets, des champignons.
J'ai une liste de 2 kg d'orange à jus, 1 livre de clémentine, 3 citrons, 2 pamplemousses, 2 bananes, 1 poire, 4 kiwis mûrs et un avocat. C'est ma femme qui fait la liste et j'obéis au doigt et à l'œil.
En général, je commence par le poissonnier
parce qu'il y a une queue qui est énorme.
Je ne prépare jamais ma liste de courses. C'est face à l'étal du marché que je décide ce que je vais acheter.
J'y rencontre une amie très souvent, on prend un café, on parle un peu, et voilà, c'est en même temps très convivial, si vous voulez.
Typiquement, j'ai fait une photo de mon livre de recettes, la liste 2.0, on va dire, et ça demande plein d'herbes. J'essaie de rien oublier.
Ah oui, les herbes aromatiques, il faut bien les noter.
On c'est
les
dur à trouver,
en plus, parfois. On conserve dans du sopalin, enfin dans de l'essuie-tout humide, dans le bac à légumes en rentrant à la maison. Vous le faites comment, votre marché, Olivier Poul? Ça dépend des jours ou quelles sont vos habitudes?
Non, je le fais au moins une fois par semaine. Alors moi, ce que je trouve très important dans le marché, parce que quand on regarde les mêmes produits dans différentes étals, on constate parfois des différences de prix très, très, très spectaculaires.
Ça,
je ne m'explique pas toujours, d'ailleurs.
Ça, c'est vrai.
Qui vont parfois du simple au double.
La provenance, c'est vrai que parfois, quand ça vient effectivement de l'Espagne, on sait que c'est produit dans des conditions un petit peu intensives.
Mais météo aussi, parfois, la météo, un producteur va se
mais il faut faire le tour pour connaître les prix. Quoi.
Moi, je fais tout le marché. Et ensuite, c'est en remontant, en ayant repérer ce qui m'intéresse, que je vais acheter les produits. Puis surtout, je repère les authentiques producteurs. Parce que dans le marché, il y a des mais il y a aussi des simples revendeurs de produits pas toujours terribles.
Exactement, des grossistes. Et vous, Anne-Laure ?
Moi, mon premier plaisir, c'est de papoter justement avec les producteurs. Parce qu'ainsi, on se rend compte des difficultés du quotidien, de pourquoi leur salade a augmenté de 2 euros, enfin, pour caricaturer des choses. Et on parlait aussi du fait de prendre les choses lourdes en dernier. Moi, je ne suis pas d'accord, j'ai un caddie. Je mets mes choses lourdes en premier dans mon caddie.
Ah, moi, en dernier, moi. Parce que oui, moi, je suis d'accord.
Pour pas écraser mon poisson.
Caddie, moi, j'oublie tout le temps le caddie, en fait. Ben sur les marchés, c'est aussi la saison du citron. Celui de Menton est à part. Eh bien, on le goûte et on vous en parle juste après ça. Bon samedi matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
En hiver, on le sait, hein, les agrumes et notamment le citron nous permettent de garder la pêche. Alors, vous êtes peut-être en train de boire un citron pressé coupé avec de l'eau pour bien démarrer le week-end. Ce matin, on va essayer d'y voir plus clair parmi les différentes variétés de citron. Alors, celui qu'on voit le plus souvent sur les étals, c'est l'Eureka. Hein, on le produit 8 mois sur 12. Il est très rentable. L'Espagne en est le berceau. Il est assez acide. Mais on peut aussi déguster des citrons sans faire la grimace. Acidulé, plus doux, il y a le fameux citron de Menton qu'on va cueillir dans un instant, mais il a aussi des cousins en Italie, ce citron de Menton, c'est pas loin, hein, Olivier Poul.
Non, grand pays de citron avec pas moins de 6 indications géographiques protégées, moi il y en a énorme. Un que j'aime beaucoup. C'est le citron qu'on trouve sur la côte amalfitaine. Alors, la côte amalfitaine, quel endroit de rêve, le fameux citron de Sorrente, qu'on trouve près de Naples et sur l'île de Capri. Alors ça, c'est un citron qui est très gros, qui n'est pas très acide et qu'on utilise notamment pour faire le limoncello.
On dirait un gros cédra un peu. Oui. Hein. Et vous, au rayon citron, Anne-Laure ?
Moi, j'aime beaucoup le citron de Syracuse. On va plutôt aller plus loin en Sicile. Et surtout, c'est des citrons qui datent quand même du XVIIe siècle. Et le nom du cultivar, on ne dit pas variété pour les agrumes, parce qu'on les a fait pousser et varier artificiellement pour être ensuite cultivé. Ça s'appelle le Feminello, quand même, le citron de Syracuse.
Le Feminello.
C'est très joli, moi, je trouve.
C'est bien.
Et c'est gorgé de jus, et l'huile essentielle est souvent utilisée chez les parfumeurs.
C'est vrai que ça sent bon, rien que le zeste. On va l'entendre d'ailleurs, on peut tout utiliser dans le citron. Alors justement, chez nous en France, le citron qui fait la fierté du pays, c'est le citron de Menton. Il bénéficie d'une IGP, hein, la fameuse indication géographique protégée. Il est cultivé sur 5 communes, hein, sur la Côte d'Azur. Acidulé, je le disais, on peut le consommer tel quel. Alors d'où lui vient sa douceur légendaire? Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 que vous croisez souvent dans la région, a voulu en savoir plus. Il est allé presser le citron de Laurent Ganac, producteur et créateur de la Maison du Citron à Menton.
Je suis parti vraiment de rien ici, c'était de vilain talus qu'il a fallu engraisser avec de la bonne terre végétale et j'en ai fait un petit paradis, oui c'est vrai. On est extrêmement pentu, donc ce qui explique aussi la qualité de l'autre citron parce qu'on a un terroir donc qui est vraiment positionné, comme vous le voyez, face à la mer avec une douceur maritime qui remonte. On est protégé par un cercle montagneux donc qui nous protège du froid. On a de la douceur, on a des sols un petit peu particuliers, limoneau sableux avec un peu d'argile, point trop de calcaire.
Alors là, on les voit, vos fruits, on est en pleine saison.
Le top de la maturité, c'est maintenant, c'est février. Vous avez des arbres qui sont magnifiques parce que chargés, colorés, avec ce bleu du ciel, le bleu de la mer.
Et le goût?
Ben, le goût, c'est le soleil, hein. C'est du soleil sous une écorce charnue qui n'est absolument pas amère, donc sur le citron de Menton. Et un zeste très parfumé, un taux de sucre dans l'albédo qui est plus élevé que la moyenne, donc pas d'amertume. Et dans la pulpe, une acidité modérée. ce qui veut dire qu'elle est toujours présente. Et heureusement, un citron, on l'aime pour quand même cette acidité, mariée avec un taux de sucre quand même un peu plus élevé que la moyenne, et puis des arômes, des fragrances qui sont exceptionnelles.
Eh bien oui, acidulé, c'est vrai qu'on veut qu'il soit un petit peu acide, hein, le citron de Menton. Merci c'est Laurent Ganac, hein, qu'on retrouve à la Maison du Citron. Citron bio d'ailleurs, hein, cultivé par Laurent Ganac. Alors on les a devant nous, tiens, Anne-Laure et Olivier. Mmh. Alors, on a un citron classique, hein, le Reca, comme je disais, qu'on trouve partout, qui vient d'Espagne. Et puis le Menton, on va goûter, tiens, pour
ils
voir.
Ils n'ont pas la même tête. Hein. L'écorce est plus épaisse quand même.
Mais voilà. Alors, quand on les goûte, il y a une différence très nette. Ah, oui. Celui de gauche, il est très acide, on fait la grimace.
Ça attaque grave. Mmh. Ah, oui.
Alors que l'autre a un côté beaucoup plus doux, on peut presque le manger comme ça.
Et on peut même manger la peau.
Ah, bien sûr.
Surtout qu'on peut, puisque... Il est bio, effectivement, et c'est ce que disait Laurent Ganac dans le reportage. On peut manger l'albédo, c'est cette partie blanche, effectivement, qui est aussi utilisée par les pâtissiers, parce qu'il y a un petit côté comme ça texturant dans les pâtisseries.
Mais c'est indispensable qu'ils aient des bonnes variétés de citron, sinon ça déséquilibre tout le goût.
Alors, si vous êtes du côté de Menton, il y a une dame que j'adore qui s'appelle Louisa, c'est Pasta et Piémonté. Elle fait des raviolis au citron de Menton. Je suis allé la voir plusieurs fois quand j'étais dans la région. Des raviolis frais, vous les mangez comme ça, salés avec un petit peu de crème, et on peut les manger aussi en version sucrée. Vous les faites revenir, ces raviolis frais, dans de l'huile d'olive et vous les saupoudrez de sucre glace. Ça fait entrée et dessert à la fois. Pasta et Piémonté.
Et n'oubliez pas la fête du citron de Menton démarre aujourd'hui. Et ça dure jusqu'au 3 mars. Et surtout, il ne faut pas rater les chars très spectaculaires constitués uniquement d'agrumes.
C'est magnifique.
C'est des animaux recouverts d'orange et de citron. C'est spectaculaire.
Et une recette facile et inratable pour ce week-end, un risotto à lemon, un risotto au citron. Vous faites votre risotto de manière classique, hein, avec le riz carnaroli, mouillé tranquillement avec le bouillon. On termine avec un petit peu de beurre. On presse le jus de un ou de deux citrons. On râpe du zeste par-dessus, un petit peu de parmesan. C'est extraordinaire.
C'est un peu comme les pâtes au citron.
Exactement.
Fait, hein. Et une autre recette, tiens, pour finir sur une note sucrée, Olivier et Anne-Laure, c'est une mousse au citron de Menton, par exemple, évidemment, avec le jus de citron, les zestes et puis des jaunes d'œufs, comme pour une tarte au citron. Vous allez faire monter ça, un petit peu de blanc en neige pour faire de la meringue, et vous prenez des petits biscuits qui traînent dans le placard pour avoir un contraste de texture. Comme ça, c'est une mousse au citron de Menton meringué. C'est un peu, on va dire, une tarte au citron express revisité.
Ah, ça me tente bien.
Elle vient de traverser Europe 1 justement sur un char en brandissant son journal de la cuisine, comme au Corso de Menton. C'est Marion Sauveur. Elle n'est pas loin et on va tout vous dire sur la pêche durable juste après ça. A tout de suite.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors moi, il m'épate.
Même avec l'existence des labels, il est difficile de savoir si on choisit le bon poisson sans épuiser les stocks. Alors nos conseils pour devenir un pro de la poiscaille, c'est juste après le journal de Marion Sauveur qui vient de nous rejoindre. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Nos cultures de tomates surveillées, la pêche responsable à l'honneur et de plus en plus de cultures bio. Voici le menu de votre journal. Alors, un virus menace les tomates, les poivrons et les piments français ?
Oui, c'est le Tomato Brown Rugose Fruit Virus, son nom.
Quand même.
Il touche déjà nos voisins et il fait apparaître sur les fruits des taches jaunes. Il leur donne un aspect rugueux. Alors, je vous rappelle qu'en cette saison, ce sont donc des tomates sous serre. La maladie pourrait arriver en France, c'est pourquoi l'ANSES lance une alerte, mais il n'y aurait pas de danger pour l'homme, rassurez-vous.
Mais c'est pas la saison de la tomate, donc on fout la paix pour l'instant, puis on verra si ça va mieux peut-être d'ici cet été. À partir de lundi, c'est la quatrième édition de la semaine de la pêche responsable. Marion.
Oui, et une bonne nouvelle, selon les chiffres de l'Ifremer, l'an dernier, près de la moitié des poissons pêchés en France provenaient d'espèces exploitées de manière durable. C'est une belle progression, hein, puisqu'en 2000, on n'en comptait que 15%. Nous parlerons de la pêche durable dans quelques instants avec vous, Laurent, et le chef Christopher Coutenceau.
Oui, il arrive tout frais, Christopher Coutenceau de La Rochelle. Dans le monde, on cultivait plus de 71 millions d'hectares bio en 2018.
C'est 2 millions d'hectares de plus qu'en 2017, d'après la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique. On peut se réjouir que le plus grand nombre ait accès au bio, même si les exploitations s'agrandissent. Plus de bio à taille industrielle, mais moins à taille humaine.
Eh oui, voilà, ça s'intensifie. Bah ouais, il ne faudrait pas qu'on renverse la vapeur du mauvais sens. Marion Sauveur, votre cerise sur le gâteau cette semaine, c'est une belle initiative qui porte le nom des bienveillants.
Oui, c'est une cagnotte solidaire lancée par le site des bons plans parisiens My Little Paris pour soutenir l'association Ernest. Alors Ernest distribue en fait des paniers de fruits et légumes frais qui sont cultivés en circuit court une fois par semaine à des familles dans le besoin. Ça se passe à Paris et à Bordeaux. Et alors pour faire un don pour cette cagnotte solidaire, vous pouvez le faire à partir d'un euro, sachant qu'un panier moyen pour une famille c'est 10 euros. Et en échange, vous pouvez remporter un dîner dans un des restaurants partenaires des bienveillants.
Ah bah c'est sympa. Quels sont les restaurants chez qui on peut dîner alors?
Alors ce sont 9 adresses parisiennes qui sont assez en vue en ce moment. Yaya de Juan Arbaliès, Dacha d'Alexia Duchesne qui a participé à Top Chef, ou encore Anosté, la table de Julien Duboué.
Julien Duboué qu'on aime beaucoup, qui est venu ici au micro des Bons Vivants. Bon. Un bon restaurant basque effectivement pour un chef landais.
Alors la cagnotte a été lancée cette semaine, ça dure 3 semaines et on espère que cette initiative pourra se propager un petit peu partout en province.
Et bon, Ernest. Ernest, voilà, on mettra les références sur europe1.fr. Merci Marion
Avec
Sauveur.
Plaisir.
Alors, notre consommation de poissons augmente alors que les ressources des océans ne sont pas illimitées, ça on le sait. Lundi débute la semaine de la pêche responsable. Alors, pour faire un état des lieux et choisir d'autres espèces que le saumon et le cabillaud, eh bien, nous avons invité Christopher Coutenceau, le chef cuisinier pêcheur étoilé et engagé de La Rochelle. Bonjour Christopher Coutenceau.
Bonjour.
Et
bonjour.
Merci d'être là.
Avec grand plaisir.
Et bravo pour cette 3e étoile.
Merci beaucoup.
Décrocher une belle pêche.
Un gros poisson, ouais.
Votre restaurant se trouve à La Rochelle, Christopher. Alors avant vous, c'était le restaurant de votre papa. On peut dire que vous avez grandi dans la mer, quoi.
J'ai grandi dans la mer et aussi dans la casserole. Hein. Donc on a racheté avec Nicolas, qui est mon directeur de salle, il y a 13 ans, à la suite de mes parents.
Vous êtes engagé depuis toujours pour la préservation des mers et de leurs ressources, Christopher. Vous êtes même engagé dans plusieurs associations. Quelles sont les espèces les plus menacées aujourd'hui, déjà, pour être très clair?
Toutes les espèces sont menacées aujourd'hui, hein, parce qu'il y a la surpêche, mais il y a la pollution et le réchauffement climatique. Hein. Un petit exemple, 2 degrés de plus sur l'eau pendant la période de frais, toutes les naissances seront que des femelles. Donc la reproduction sera complètement interrompue. La pollution fait avorter les poissons aussi et les stérilise. Et après, il y a encore la surpêche. Donc on parle beaucoup du bar en ce moment, par exemple, le bar, le maigre, la sole, le turbo. Tous les poissons un peu connus sont quand même en danger.
Mais le bar, c'est pas la saison, là, par exemple. Hein.
Non, pas du tout. Donc, c'est un poisson qui va se gaver, vraiment se nourrir très fortement de novembre jusqu'à décembre. Après, il part sur les frayères, donc la zone où il se reproduit. Et là, il arrête de se nourrir pendant 3-4 mois. Donc, comment vous dire, c'est comme manger une tomate en plein hiver.
C'est ça,
un poisson
pareil.
Fatigué, fibreux, nerveux, pas de gras.
Ça n'a pas de sens.
Et puis, la ressource fait qu'il faut le laisser se reproduire, comme on fait avec le gibier, par exemple.
Alors, amis auditeurs, on va vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez bien l'état des lieux de notre consommation de poissons. À l'échelle européenne, par exemple, Anne-Laure.
Eh bien, on mange 20 kilos de poissons par an, par personne. Soit presque 2 fois plus qu'il y a à peine 50 ans.
Et oui, on a doublé notre consommation de poissons.
Et 25% des poissons qu'on mange sont des poissons qui proviennent de la pêche française. Donc, on fait venir aussi beaucoup de poissons de l'étranger.
C'est pas tant que ça.
Avec parfois des pratiques qui sont très douteuses.
Hein. Oui, parce que plus de la moitié des mers est exploitée par des chalutiers énormes issus de la pêche industrielle.
Ça vous énerve, hein, Christopher Coutenceau, et nous aussi ces grands chaluts qui affichent une concurrence disproportionnée pour les petits artisans pêcheurs qui peuvent pas lutter là.
C'est même pas une concurrence, ils sont en train de les tuer.
Oui.
Quand on voit dans le nord là tout cet hiver les 2 bateaux de plus de 200 mètres de long qui étaient capables de pêcher presque 200 tonnes jour. Comment expliquer derrière quand le petit artisan avec son petit corolleur va sortir à la journée? Qui va revenir les cales vides, hein, tout simplement. Et en plus, un poisson souvent maltraité, de qualité complètement médiocre, et en plus, une pêche qui n'est pas du tout éco-responsable.
Oui, parce qu'on parle de quotas de poissons, mais quand ces gros chaluts arrivent avec leur filet immense, qui racle tout le fond des mers et des océans, évidemment qu'ils ne remontent pas uniquement avec les poissons qui sont autorisés à la pêche. Donc, dans le meilleur des cas, ils les remettent à l'eau pour certains, mais certains sont déjà abîmés. Et puis dans d'autres cas, eh bien, ils les mettent à la vente.
Oui, puis ce qu'il faut savoir, c'est que sur un coup de chalut comme ça, c'est entre 60 et 70% du poisson pêché qui est rebalancé mort à l'eau. Parce que trop petit, donc pas taille légale de
70%.
Capture. 70%.
C'est énorme.
Espèces non visées et les quotas sont mal faits. Moi, je connais certains bateaux à La Rochelle. Ils sont en pêche, ils ont atteint leur quota de barre, mais il leur reste du quota de merlu. Donc, ils continuent à racler les fonds. Mais ils remontent des barres de 4 à 5 kilos Ils ne peuvent pas les garder parce qu'ils ont déjà atteint leur quota, donc on les relance mort à l'eau.
Ouais, alors voilà, ça c'est l'état des lieux désespérant. Alors, il y a un petit peu d'optimisme dans tout ça parce que la semaine prochaine débute la semaine de la pêche durable. Et effectivement, il y a des alternatives quand même. On peut consommer certaines espèces, certaines variétés de poissons qui sont abondantes, qui ne sont pas menacées dans nos océans et qui en plus sont bon marché pour le porte-monnaie. Eh bien, on vous en parle justement avec Christopher Coutonceau. On a plein d'exemples de poissons à vous donner et puis des idées de recettes aussi parce que Christopher Coutonceau, il a 3 étoiles quand même. Ça rigole pas. Hein. À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Lundi débute la semaine de la pêche durable. Alors on en profite pour vous donner des idées de poissons à cuisiner avec le chef Christopher Coutonceau. Il cuisine à La Rochelle avec la mer pour jardin. Et il est avec nous ici au studio Coluche. Christopher, tiens, si on devait définir déjà les choses clairement, c'est quoi la pêche durable, la pêche responsable ?
La pêche responsable et durable, c'est tout simplement une pêche saisonnière, issue de pratiques pêche à la ligne, pêche au casier. Alors pourquoi la ligne ? Parce que si le poisson est trop petit ou s'il y en a assez, on enlève l'hameçon, on le remet dans de bonnes conditions à l'eau pour qu'il puisse continuer de grandir. La pêche au casier, même façon, le poisson est vivant. Et en plus, on peut le travailler parce que les marins pêcheurs artisans ont aussi une plus-value à apporter à leur poisson. Un joli bar de ligne en pleine saison qui est pêché à la ligne, juste saigné derrière pour purifier les chairs. On a encore des saveurs et des goûts et une texture de chair de poisson qui est tout simplement exceptionnelle. Et leur prix va être en répercussion aussi.
Alors nous sommes nombreux malgré tout à faire nos courses en supermarché. Et ces espèces-là, on ne les trouve pas forcément sur les étals des supermarchés, Christopher.
Ah oui, le gros problème, c'est la création de l'être humain avec ce mot poisson noble ou poisson dit pas noble.
Ouais, le poisson noble, c'est quoi pour faire
C'est le bar, la sole, le turbo.
Le turbo, le Saint-Pierre.
Voilà.
Des poissons qui coûtent cher, hein, au passage.
Qui coûtent cher, voilà, mais c'est l'être humain qui a fabriqué cette côte. Oui, mais bon, on va quand même privilégier les poissons qu'on a chez nous. Ça aussi, c'est pareil, c'est quand même un grand drame d'être sur le port de La Rochelle et trouver du saumon d'élevage, du cabillaud, alors qu'il y a moult espèces qui vivent dans nos eaux.
C'est les deux poissons les plus consommés, hein, le cabillaud et le saumon.
Et alors, que penser justement des poissons d'élevage ? Parce que justement, du bar, on en trouve de plus en plus d'élevage, on trouve du turbo d'élevage aujourd'hui, etc. Qu'est-ce que ça vaut ?
Bon, rien.
Mais les radicales.
Rien, tout simplement, parce qu'on m'a toujours dit, pour faire une grande recette, il faut utiliser les meilleurs produits. Donc, produits de saison. Poisson d'élevage, j'ai eu la chance ou pas de visiter des filières en Norvège, label rouge. Donc ils sont tellement nombreux qu'ils attrapent le pou de mer, donc on les arrose à la lance incendie de pesticides. Il y a des catalogues pour choisir selon les pays la couleur de la chair que vous désirez. Et puis au bout de 3 ans, il n'y a plus un ver de sable ou un coquillage qui vit en dessous ces filières.
Alors ça, c'est le côté intensif, même en label rouge, c'est vrai que c'est désespérant, mais on sait aussi qu'il y a quand même des progrès qui sont faits sur les élevages de saumon en Irlande, en Écosse, même si c'est un peu les mêmes façons de procéder qu'en Norvège. Mais il y a du saumon bio quand même, qui lui est peut-être préférable, non, quand même, que tout ça, ou même
oui,
pas, il n'a pas votre faveur.
Bien sûr, un petit peu mieux, mais moi je suis encore partisan de manger d'autres espèces sauvages et d'être responsable. Il faut voir la mer aussi un petit peu comme un jardin, hein. On est capable de se priver de tomates, donc on est capable de se priver de bar et autre chose. Et j'ai envie de dire, faut comparer avec le vin aussi. On va faire le vin quand le raisin est mûr, tout simplement.
Alors justement, tiens, Christopher Coutonceau, on est mi-février. Qu'est-ce qu'on consomme en ce moment comme poisson sur le marché ? Qu'est-ce qu'on va acheter alors ?
Écoutez, vous avez des poissons fabuleux comme la vieille, qui est de la famille des mérous, hein, qui vit, on en a beaucoup chez nous, ça vit dans les trous de roche. Ça se nourrit exclusivement que de crustacés. Donc une chair en goût très très fine.
Et ça coûte pas cher, ça, en plus, quoi.
C'est un poisson qui coûte 3,50 ou 4 euros le kilo.
C'est génial.
Donc moins cher qu'un steak haché industriel, quand même.
Et comment on cuisine la vieille, alors ?
Alors, tout simplement, si vous levez les filets, il faut bien enlever la peau et surtout enlever le flux sanguin qui est entre les premières chairs et la peau, parce que ça peut donner un petit goût d'amertume. Et après, vous avez un panel de techniques à faire, tartare, carpaccio, juste rôti, en papillote, et c'est un poisson vraiment fabuleux.
Et ça, je peux le trouver partout, on peut le trouver dans la Creuse, on peut le trouver en Normandie, on peut le trouver chez les poissonniers à côté de chez nous ou pas ?
On en trouve un petit peu, mais c'est ça aussi le problème, c'est que c'est le sourcing qui est compliqué sur ces espèces dites un peu méconnues. Parce que, on le sait très bien, comme tout maraîcher ou tout poissonnier, ils vont mettre sur l'étalage des espèces de poissons que les gens connaissent et qui vont vendre.
Donc à nous, consommateurs, de demander ces espèces méconnues, justement, pour qu'elles arrêtent d'être méconnues. Alors, il y a la vieille, il y a la vive aussi, que vous aimez bien.
La vieille, la vive, bon, le merlan est un petit peu plus connu, mais il y a le taco, il y a l'orphi,
le chinchard aussi.
Chinchard, vous allez au Japon, le chinchard coûte une fortune. C'est un poisson tout simplement fabuleux.
C'est un cousin du maquereau, un peu,
le
chinchard.
Voilà, c'est la famille un peu des tonidés, ouais. Famille poisson maquereau, bleu, bonite, c'est ça.
Et vous qui avez 3 étoiles au guide Michelin depuis quelques semaines, Christopher Coutenceau, vous avez même un plat signature autour de la sardine, hein. Un tête à queue de sardine.
C'est ça, la sardine de la tête à la queue. C'est vrai qu'on travaille beaucoup justement pour faire connaître et revaloriser ces espèces peu connues de poissons, comme le merlu il y a quelques années, hein. Aujourd'hui, le merlu coûte un certain prix. Il y a un label quand même dans le Pays Basque. Mais il y a quelques années en arrière, c'était la godaille du marin pêcheur, hein, pour manger bouillie avec de la mayonnaise et des pommes de terre.
Ouais, mais dans le golfe de Gascogne, justement, on a fait en sorte que les stocks de merlu soient préservés. C'est un peu comme la coquille Saint-Jacques. On a mis des périodes de pêche, en fait.
Oui, puis on l'a valorisé aussi. C'est devenu un poisson dit noble aujourd'hui, le merlu. Ce qu'il n'était pas 20 ans en arrière.
Ce qui est un peu le cas du cabillaud aussi. Il y a 20 ans, le cabillaud, personne n'en voulait. Aujourd'hui, c'est devenu un poisson rare et cher.
Complètement. Et c'est ce qu'on fait au quotidien au restaurant. C'est qu'on va travailler la vieille, on va travailler la sardine de la tête à la queue. Parce qu'on parle de 20 kilos de consommation de poisson par habitant. Mais on parle que de filet. Mais il n'y a pas que le filet à manger sur le poisson. Il faut prendre aussi l'exemple du cochon. Où tout est bon dans le cochon. On va manger les pieds, on va manger la queue, on va manger les joues. Et sur le poisson, il y a un gros travail à faire aussi là-dessus.
Racontez-nous cette recette de sardines de la tête à la queue que vous faites, parce qu'il y a une glace en plus avec du hareng, c'est ça, hein, je
crois. Oui, le bouffi, le hareng fumé entier. On commence par gratter la sardine, on récupère les écailles qu'on va faire frire.
Et parce qu'on les mange aussi, les écailles,
c'est génial.
Complètement,
c'est ce qui apporte la texture au plat et le côté crispy. Et chaque morceau, en fait, va apporter une saveur différente sur ce poisson-là. Après, on va travailler les filets en tartare, d'autres juste marinés. Alors ça, c'est aussi culturel de chez nous. Petit, on mangeait ça sur une tartine de pain beurre avec une goutte de jus de citron, comme ça,
beau,
en entrée.
C'est beau, ça.
Chez les grands-parents.
Comme les rillettes de l'apéro, hein, c'est pareil.
Bien sûr,
c'est
ça.
Ça rappelle ça, bah oui, bien sûr.
Et après, on en fait des filets caramélisés. On fait une vinaigrette de tête de sardine. Avec le haut de l'arête, on fait un bouillon d'arête de sardine. Et puis après, l'arête croustillante. Et on finit avec une glace au bouffi.
Le travail d'un grand chef. Oui. Anne-Laure Pham, quelques sites pour se repérer, s'il vous plaît, quand on va aller faire ses courses et savoir où on peut trouver justement de la pêche durable pas loin de chez soi.
Il y a un grand classique, c'est mrgoodfish.com. Franchement, qui est très clair, très pédagogique. Vous avez aussi le site Éthique Océan. Et j'ajoute à titre personnel que j'aime beaucoup poiscaille.fr, oui, qui est un site marchand qui fait des livraisons de cagettes de poissons. C'est vraiment phénoménal en termes de choix et de qualité de fraîcheur et de durabilité. C'est dans toute la France.
Et là, on peut leur commander, je pense, de la vieille et de la vive, recommandée par Christopher Coutenceau. Le WWF aussi, hein, recense les espèces de pêche durable. C'est bien de prendre conscience vraiment en ce moment, Christopher Coutenceau, parce qu'on parle beaucoup d'écologie, d'environnement, mais l'état de nos océans et de nos mers est inquiétant aussi, hein.
Oui, vraiment inquiétant. Si la mer disparaît, toutes ces espèces, c'est la Terre qui va suivre derrière. Mais je voudrais réinsister un petit peu aussi sur les autres parties à déguster sur le poisson. On fait un merlu, par exemple, au Coutenceau. Donc, en premier service, on va servir la joue. En deuxième service, on va servir la nageoire pectorale, qui est un des meilleurs morceaux, hein, qui est le plus gras, le plus riche et le plus goûteux. Et on finit par un cylindre de filet de merlu truffé. Et on serre les écailles, donc on va jusqu'au boutisme et on l'utilise jusqu'au bout.
Tout est bon dans le poisson et vous appliquez là ce que votre papa vous a toujours dit, quand on est cuisinier, on ne jette rien. Merci Christopher Coutenceau d'être venu à la table des bons vivants. Vous avez fait un super livre paru chez Glénat, ça s'appelle Christopher Coutenceau, cuisinier pêcheur. Je vous le recommande vivement pour comprendre votre état d'esprit et votre belle cuisine. Merci d'être venu à la table des bons vivants, Christopher Coutenceau. Comment mangerons-nous demain ? Des poissons de pêche durable, on espère, on vient de le dire, mais aussi plein d'autres choses étonnantes. C'est le sujet d'une expo à Toulouse, on vous y emmène juste après ça.
On passe à table sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être à l'écoute des bons vivants. Chaque samedi, hein, vous l'attendez comme le poulet rôti du dimanche. Le camarade Jean-Luc Petit-Renaud sera avec nous dans un instant.
Il n'est pas fumant.
Non, mais il n'est pas loin.
En attendant, croustillante.
On se projette dans le futur en attendant. Code alimentation. C'est le nom d'une expo actuellement au Quai des Savoirs à Toulouse. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Anne-Laure et Olivier et amis auditeurs, on a fait un tour dans le passé il y a quelques semaines avec l'histoire de notre alimentation au Musée de l'Homme. Expo où on s'est amusé à manger comme l'homme du Paléolithique. Eh bien, aujourd'hui, on jette un œil sur ce qui pourrait se passer dans nos assiettes dans les années à venir.
Mais ça me fait peur, en revanche.
Mais c'est vrai que ça peut... Alors, écoutez, va-t-on être condamné à faire griller des insectes? Transformera-t-on le couscous en pilule? Olivier Pouls mangera-t-il moins de viande? Eh bien,
j'aurais peur.
Voici les réponses de Laurent Chicoineau, qui est commissaire de l'exposition donc Code Alimentation, au micro de Benjamin Peter, le correspondant d'Europe 1 à Toulouse.
En fait, ce qu'on montre aussi beaucoup dans cette exposition, je crois, c'est que l'avenir, ça ne sera pas manger des pilules, ça ne sera pas manger des insectes, en tout cas pas du tout uniquement, et en tout cas sûrement pas en Europe pour les années qui viennent, mais c'est continuer notre alimentation tout en la faisant évoluer sensiblement sur des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et sur une meilleure compréhension des impacts sur la santé en fonction de qui on est.
Bon, vous êtes rassuré, Olivier Pouls.
Oui, ça va mieux là.
Hein, ça va mieux quand même.
Ça va mieux.
C'est une expo qui est pensée en fait comme un jeu vidéo par des scientifiques et des auteurs de science-fiction qui ont travaillé vraiment main dans la main. Il y a des propositions sérieuses qui sont faites par les chercheurs de l'INRA. Il y en a d'autres qui sont plus fantaisistes. Écoutez, tiens, cette découverte étonnante. C'est une drôle de plante racontée au micro de Benjamin Peter.
C'est une plante qui, en fait, dont les fruits sont comme des côtes de porc, d'où son nom porc côtier. Donc c'est l'idée que finalement, en transformant génétiquement une plante, on va l'amener à produire des fruits qui auraient le même goût que la viande, même la même texture. Il y a de plus en plus de technologies de transformation pour transformer des végétaux en steak, mais c'est pas évidemment de la vraie viande. Ça pose la question du rapport à la viande qu'on a aujourd'hui.
Et ça vous fait rêver,
oui, parce que je vais en planter cet été dans mon jardin.
J'étais sûr, ce serait du barbecue.
Des arbres, vous imaginez, avec les côtes de porc qu'on irait cueillir comme ça, juste avant d'allumer le feu.
Ça ressemble à de la viande, ça a le goût de la viande, mais ça n'est pas de la
je
viande.
Je préfère la courge au jambon de
ça
tout à l'heure.
Ça vous rappelle rien, ça ouais. C'est le Canada Dry de la viande, quoi. Ouf. Voilà, en tout cas, il y a plein d'initiatives comme ça, amusantes. Ça s'appelle Expo Code Alimentation et c'est au Quai des Savoirs à Toulouse jusqu'en septembre. Alors, vous avez le temps.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Allez les amis, c'est l'heure de retrouver Jean-Luc Petit-Renaud, l'ami du déjeuner. Alors, les vacances d'hiver lui donnent des envies d'escapade. Il est installé au bar du Central à Paris, c'est pas loin de la Tour Eiffel, pour vous situer le quartier. Il est en train de boucler sa valise, Jean-Luc, et vous le connaissez, hein. Pas question d'oublier la nappe à carreaux pour pique-niquer dans le train, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour l'ami Jean-Luc.
Bien le bonjour les camarades. Bien, on se rend compte que finalement à peine les guirlandes de Noël rangées, le dernier marron glacé avalé, eh bien qu'il faut recommencer à penser à toutes ces belles périodes de vacances. Alors j'avais envisagé un peu ce pique-nique qui est toujours un moment assez triste quand on l'a pas assez préparé et que l'on descend au sport d'hiver. Alors on va ressortir une nappe, ça s'appelle la nappe de voyage, elle est plus petite. On a trouvé un club à 4, vous savez où on est assis dans le fameux TGV, on attend le départ, on pousse les téléphones portables et autres et sur cette nappe on va dresser un petit repas que la maman ou le papa a inventé la veille au soir. On aura pensé à de jolies petites brioches qu'on sera allé acheter au saut du lit, coupé dans le sens de la largeur, dans laquelle on va mettre un bon saucisson, une belle feuille de salade, un joli cornichon. On a chacun le sien. On va picorer un très beau comté. Ça prépare à la glisse, tout ça, sur les pentes. On est loin du sandwich SNCF. On recrée une intimité de la table. Et en dessert, on aura des petits chaussons aux pommes. Un peu de pâte brisée, quelques pommes épluchées au milieu, et on ferme ça comme une sorte de bouchée de bonheur. Et puis au bout d'un moment, on plie tout, on ramasse tout, on peut voir les montagnes enneigées sous les yeux. On est au sport d'hiver, un bonheur, mais on a le ventre plein et l'esprit heureux.
Ah, on y est. Puis une petite sieste derrière l'ami Jean-Luc, évidemment. Merci Jean-Luc Petit-Renaud.
Oui, je voyagerais bien avec lui, mais il a oublié la bouteille. Et ça, je m'en charge éventuellement avec le tire-bouchon. Ah, et les verres, des vrais verres en verre qu'on apporte dans le train.
Mais moi, je le fais de temps en temps. J'adore ça, le pique-nique dans le train. C'est génial, effectivement. Il y a une façon d'arriver lentement comme ça vers les montagnes. Si vous partez et que vous avez la chance d'aller skier, ben voilà, vous savez de quoi on parle. Et on retrouvera, bien entendu, Jean-Luc Petit-Renaud la semaine prochaine à la table des bons vivants. Touchous, Jean-Luc, toujours. C'est bientôt l'heure d'accueillir notre invitée. Elle a enfilé son soulier qui vole pour nous rejoindre. La bonne vivante Chantal Goya sera avec nous juste après ça. Bon samedi midi et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Merci d'écouter la table des bons vivants, les amis. Ça y est, c'est le moment d'accueillir notre invitée. Elle a tourné avec Godard, cassé la croûte avec les Beatles, tutoyé Johnny. Notre invitée est une idole dans nos cœurs d'enfants. Avec son personnage de Marie-Rose, elle a inventé le musical pour enfants. 40 ans et 40 millions de disques plus tard, elle va nous montrer qu'elle est une bonne vivante, juste après avoir déchaussé son soulier volant. Chantal Goya est notre invitée. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Bonjour Chantal.
Bonjour. Ravie de vous recevoir, Chantal.
Bah oui, moi aussi.
En tournée dans toute la France, avec un spectacle qui remplit des salles de dingue. Et puis vous serez également aussi au Palais des Congrès à Paris au mois d'octobre.
Le 3 et 4 octobre, exactement. Et prochainement à Nice, Toulon, les Zéniths de Nikaya de Nice.
29
Toulon,
février à Nice, 1er mars à Toulon. Et oui, 40 ans que ça dure, ça n'arrête pas.
Ben, finalement, pour quelqu'un qui ne devait pas chanter, j'ai quand même fait fort parce que ce n'était pas prévu dans ma tête tout ça. Moi, je ne suis pas une carriériste. Hein. Moi, je voulais juste remplacer quelqu'un pour faire plaisir aux carpentiers à l'époque.
Vous voulez être journaliste de mode,
oui,
en fait.
Non, moi, je vais être grand reporter, carrément.
Ah, grand reporter, carrément.
Oui, je voulais partir au bout du monde, expliquer tout ce qui ne va pas, tout ce qui est beau, tout ce qui n'est pas terrible. Enfin, pour ça que j'avais appris l'anglais, pour parler bien anglais.
Oui, vous avez passé un petit peu de temps à Londres, en fait.
Oui, j'ai passé 2 années complètement, mais 16 ans, 17 ans, jusqu'à 18 ans, de 16 ans à 18 ans.
Vous jouez le samedi après-midi votre spectacle dans toute la France en tournée, Chantal Goya. Le soir, ça veut dire que ça permet de découvrir des bonnes tables en région.
Ben voilà, c'était la tradition dans mes tournées. C'est que moi, j'avais, avec Jean-Jacques, qui est un bon vivant et bon épicurien, qui aime bien manger. Bon, il boit moins de vin en ce moment, mais enfin, il connaît les bons vins.
Il a un bon coup de fourchette, Jean-Jacques.
Il a un bon coup de fourchette, exactement. Et chez moi, on a tous un bon coup de fourchette. Hein. Mes enfants aussi. La preuve, c'est que mon petit-fils, il va être dans la cuisine. Il fait ses études. Il est allé chez des grands chefs.
Dernièrement, vous avez fait des souvenirs de belles tables à Montreuil-sur-Mer, à Troyes.
Montreuil-sur-Mer, j'ai été chez Gauthier.
Alexandre Gauthier, qui était ici il n'y a pas longtemps.
Pareil, oui, et j'ai surtout aussi mangé déjeuner chez sa femme, enfin son ex-femme, qui est un bistrot.
Oui, absolument.
C'est très, très bon.
Le Frogies. Il y a le
Frogies.
Anecdote aussi, qui est un joli bistrot qu'il a fait en hommage à son papa, Alexandre Gauthier.
Oui, mais voilà, des endroits que j'aime beaucoup parce que c'est très soigné, en même temps c'est très raffiné. Et moi, si mon assiette elle est vide, c'est que c'était très bon. Hein. Parce que moi, je suis terrible. Là, je me fais toujours engueuler par Jean-Jacques, mais t'as pas mangé toute ta viande. Ben oui, mais elle est dure, je sais pas comment leur dire. Oh, je vais leur dire quand même, c'est pas grave.
Ben oui, il faut dire.
Il faut dire, c'est mieux.
En privé, on dit que vous êtes la reine des gratins et du gigot, c'est vrai ça?
Moi, je sais faire les gigots parce que c'est le plat qu'on faisait à la maison le dimanche. Et puis les gratins, bien sûr, des gratins de légumes, des gratins de pâtes, des gratins de plein de choses. Là, j'ai mangé hier soir des gratins de, ben justement, des lasagnes, des lasagnes légumes, j'ai fait.
Ben voilà, mais le gratin, ça sert à ça, ça sert à passer aussi les restes du frigo. Hein.
Oui,
c'est bien pratique.
Oui, et la hachis parmentier, j'adore.
Quel est votre goût de la semaine, Chantal Goya?
Mon goût de la semaine, qu'est-ce que ça va être le goût de la semaine? Je vais aller chez moi, à la campagne, dans le Berry. Je pars tout à l'heure et là-bas, je pense que j'ai un très bon boucher. J'ai sa femme qui est une excellente cuisinière. Alors, je vais dans sa cuisine, qui est comme un laboratoire. Et puis, je vois avec elle plein de choses qu'elle pourrait nous faire. Encore des gratins de légumes, encore des bonnes viandes.
Vous vous laissez guider, vous laissez
je me laisse guider. Puis là-bas, j'ai mon fils et mes deux petits-fils qui sont des bons chefs.
Ah oui, il faut faire de belles tablées alors.
Il y en a qui fait très bien les desserts, l'autre les plats principaux, donc on va y arriver.
Chantal Goya, vous connaissez bien les enfants et vous savez que côté nourriture, bah, ils peuvent être difficiles.
Oui.
Hein, c'est pas toujours simple de leur faire manger des légumes et du poisson. Il y a un truc qui fait l'unanimité, je sais pas si vous avez remarqué, c'est le nuggets en tout cas.
Bah, je sais, parce que j'en ai donné beaucoup à mes petits-fils. Ouais, c'est ça.
J'espère.
Je demandais des bons nuggets. Goûter avant. Hein,
parce
attention.
Que quand on est parent, Chantal Goya, le nugget, ça fait pas toujours rêver, n'est-ce pas, leur femme
hein. Et oui, les amis, parce que j'ai réalisé que mon fils de 4 ans et demi était accro aux nuggets, d'où inquiétude, d'où chronique de l'angoisse que je voulais dévoiler avec vous aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il y a dans les nuggets alors?
On va voir ça ensemble, Chantal. Préparez-vous, attachez votre ceinture.
Ça fait peur.
Sachez qu'aujourd'hui, les recettes panées, ça représente quand même 30% des volumes de poulet vendus aux Français dans les supermarchés. Et avec 28 kilos par an, et par habitant, vous savez que la poulet, c'est la seule viande dont la consommation est toujours en augmentation depuis les années 90.
On
dit qu'on mange
poulet.
Moins de viande, mais en fait... Voilà,
alors avant de parler de l'origine du poulet qui est dans les nuggets, on va déjà parler du point de vue nutritionnel, ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est pas toujours glorieux non plus. Là, hein.
Ah voilà, j'ai fait un petit benchmark banc d'essai, comme on dit. Il y a beaucoup de mauvais élèves parmi les marques présentes en supermarché, c'est-à-dire que pour 100 grammes en moyenne, vous aurez 11-12 grammes de matière grasse, 17 grammes de glucides, et pas les bons glucides, les glucides rapide, et 2 grammes de sel. Et vous avez un mystère qui plane sur la véritable composition de, je cite, « préparation à base de viande de poulet traitée en salaison reconstituée ». C'est ce que vous pouvez lire au dos de la plupart des paquets.
Je sais ce que c'est, je vais vous dire. C'est des poulets de batterie qu'on prend, et alors là, on s'embête pas, la peau, les os, le cartilage, et on passe tout au blender et on mixe tout ça.
Moi, je vais le poulet dans les champs. Hein.
Mais on peut faire les nuggets soi-même, on va en parler justement, Anne-Laure Femme. C'est vrai que cette viande de cette matière de poulet, ça ne provient pas évidemment de poulets qui gambadent dans les champs.
Et non, ça va provenir des élevages qui sont chez nos voisins européens, type Belgique, Pologne, Pays-Bas, ouais. Ukraine, Allemagne. Je précise aussi que la fameuse pâte qui sert à faire des nuggets, c'est de la viande gorgée d'eau et d'additifs pour augmenter artificiellement le poids. Donc en fait, vous faites le prix de revient. C'est super cher les nuggets, c'est un produit de luxe vendu en supermarché.
Alors c'est bien, là, on vient d'inquiéter tous les parents hein, qui nous écoutent.
Voilà.
Quelle alternative pour faire plaisir aux parents et aux enfants? Parce qu'il y en a des alternatives.
Alors, on mise sur quelques références de qualité. Moi, j'en ai une dont, franchement, qui a remporté les coups de cœur à la maison. C'est Popot Company. Ils ont une compo...
Popote Compagnie.
Une composition irréprochable, 100% filet de poulet, on est à 70% de viande, le reste de panure. Ah oui. Vous n'avez pas de matière grasse louche comme de l'huile de palme.
Ah oui. Rien à voir.
Et évidemment, la meilleure des solutions.
Bah c'est bon ça.
C'est quoi? C'est bon.
Ouais, c'est très bon.
Prouvé.
Bah c'est bon soi-même.
On vient de les cuisiner.
Ils ne sont pas mauvais. Oui,
c'est
pas
quoi
mauvais.
Ça?
Donc ça, ce sont des nuggets de poulet de la Popote Compagnie.
On écoute la reine du musical pour enfants qui connaît bien les enfants. Alors, cette
mais oui,
recette
mais moi,
de nuggets.
Manque, il manque des condiments.
Ben oui, il manque un petit peu de sauce, c'est ça que vous voulez dire?
Il manque des sauces, un peu de moutarde. Enfin, moi, je mets beaucoup de choses.
Mais
en
tant que tel, par rapport aux nuggets des fast-food qui sont très gras et saturés de sucre,
pas,
on n'y est pas.
Non, mais j'y vais pas dans les fast-food.
Pas mal, ça. Hein.
Pas mal, oui.
Quelle autre alternative, Anne-Laure Femme?
Ah ben, on va les cuisiner maison, bien sûr. Mais que ce soit les découpes de poulet ou le poulet entier, s'il vous plaît, ayez le réflexe, plein air. Français, vous limiterez déjà bien la caisse.
Mais c'est hyper facile à faire à la maison, Chantal Goya, vous qui aimez cuisiner les nuggets. Vous prenez un bon blanc de poulet fermier que vous allez mixer à la maison avec du fromage frais, genre Saint-Mauré ou fromage frais à tartiner, vous voyez. Un petit peu d'épices, du sel et du poivre. Et la panure, vous la faites vous-même en trempant ce petit beignet que vous aurez fait dans de l'œuf et puis une chapelure faite avec les restes de pain rassis. Et comme le disait Anne-Laure Femme, la chapelure, on peut la customiser avec des épices en fait. Donc ça, c'est
des
très
épices,
simple.
Des épices, des cornflakes aussi,
bien
pour qu'elles soient bien croquantes. N'hésitez surtout pas.
On trouvera les références.
Sur europe1.fr.
En tout cas, Chantal Goya est toujours là. Et
oui, c'est bien.
Le nuggets, ça va, il n'y a pas eu de drame. Hein,
non.
D'accord, très bien. Chantal Goya, vous avez le goût des voyages. On vous embarque sur l'île de beauté dans un instant avec un chef corse qui est allé pêcher des oursins pour nous. Que va-t-il en faire? Eh bien, vous le saurez juste après les titres du journal de Florence Cohen. Bon samedi midi sur Europe 1.
Ça pour un euro. Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pouce d'épinard.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h, midi 30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Depuis 11h, nous pressons le citron de Menton, nous disons oui à la pêche durable et l'ami Jean-Luc Petit-Renaud nous a convié un pique-nique dans le train, dites donc. Et Chantal Goya est notre invitée, une bonne vivante assurément. Chantal, dites donc, j'ai appris ça en préparant l'émission,
oui.
Goya, c'est pas votre vrai nom?
Non. Quand j'ai commencé à vouloir être journaliste, eh bien, j'ai été présentée à Daniel Filippaki, j'étais enchantée, qui était justement à Europe.
Ah, c'est, hein, qui est l'inventeur de Salut les copains.
Exactement.
Ici.
Exactement. Et quand il m'a vu, il a demandé à Jean-Jacques, il venait d'écrire pour moi La vie va commencer de Johnny, fais-moi une chanson pour elle. J'ai dit, mais attends, une chanson pour qui? C'est qui elle? Mais c'est vous? J'ai dit, non, mais je ne vais pas chanter, surtout pas, je ne sais pas chanter. Et puis, chez mes parents, elle est artiste, alors c'est un gros mot. Hein. Et puis, du coup, mon père m'avait dit, je te préviens, si tu es artiste un jour, tu changeras de nom, parce que si ça ne marche pas, de quoi on aura l'air? J'ai dit, bon, oui, mais nous, on est comme ça, on est direct, on ne fait pas des.
On va
y a
l'essentiel.
Pas de transposition entre la maman, l'enfant, c'est moi la vedette, pas la vedette. Moi, j'ai ma vedette chez moi,
sûr.
J'ai ma machine à laver, puis point barre. Bon,
c'est alors ce que vous avez dit à Godard, ça. Hein,
exactement, ce que je lui ai dit.
Il n'y a qu'une seule vedette chez moi, c'est ma machine à laver.
Oui, puis j'ai pas d'ego.
Et pourquoi Goya alors?
Goya, parce que justement, en allant à Biarritz, chez un grand ami qui était Guy d'Arcang, il y avait un énorme Goya sur le mur, au salon. Il m'a dit, oui, c'est un vrai Goya. Je dis, c'est pas possible, vous avez de la chance. Et vous avez vu le petit garçon qui est en bas? Ben, il vous ressemble avec sa collerette, sa frange, on dirait vous. Qu'est-ce que c'est beau, on peut faire une photo à côté. Il dit non, vous devriez appeler Chantal Goya.
Voilà,
c'est lui qui m'a donné mon nom.
C'est génial. Alors, vous avez grandi au Vietnam, l'Indochine.
Je suis née là-bas,
à l'époque, vous êtes née là-bas.
Oui.
Quel goût de là-bas avez-vous rapporté avec vous en France? Est-ce que vous avez des souvenirs de goût, de cuisine?
Moi, j'aime tout ce qui est citronnelle. J'en mets plein dans mon jardin parce que ça sent bon. Je fais beaucoup de tisane à la citronnelle. Je fais beaucoup de plats avec de la citronnelle. J'aime bien tout ce qui est un peu citron. Le riz, moi j'adore le riz, il n'y a rien à faire. Mon bol de riz, puis je suis contente. Il y a deux choses, des tomates et du riz.
Vous avez migré vers Paris avec un point d'attache chez vos grands-parents dans les Vosges,
voilà.
Chantal
Goya. À Remiremont.
À Remiremont,
Mont qu'elle a grandi.
Mont qu'elle a grandi, la bonne cocotte.
Oui, oh là là, puis j'ai toujours la tomate, des tomates.
Hein, on met des accents circonflexes surtout là-bas.
On met des O et des A.
Et quels sont les souvenirs de goût que vous avez
là-bas? Moi déjà les brimbelles, enfin les brimbelles c'est les myrtilles, on connaît.
Vous êtes une vraie vosgienne, c'est la myrtille sauvage, pas le bleu.
Myrtille sauvage,
pas pareil.
Alors on partait avec nos bicyclettes et puis on partait avec tous les copains, on allait chercher les brimbelles et puis on allait jusqu'à Gérardmer, on allait aussi de l'autre côté à Plombières se baigner. On mangeait des fruits qu'on cueillait comme ça. Et puis
on revenait avec la langue toute bleue.
Oui, toute bleue, les dents toutes noires, c'était amusant.
Alors, chaque semaine, Chantal Goya, on part à la découverte d'une bonne table en France. Ce samedi, direction la Corse. Alors, c'est la saison des oursins. On parlait de la pêche durable tout à l'heure avec Christopher Coutenceau. De bons oursins, Olivier Pouls, hein, ça rassemble toute la famille, ça aussi. Hein.
Oui, c'est extraordinaire. Ce coup d'iode qu'on prend dans la bouche quand on mange, les oursins. Tout le monde n'aime pas ça. Hein. C'est vrai que c'est assez puissant.
Moi, vous aimez Chantal
sur des
mais
pâtes,
oui,
ça
mais c'est Jean-Jacques, il adore ça. Mais ça a toujours autorisé d'en pêcher?
Ah oui, c'est la saison, là. Oui, il y a des saisons. Alors, Frédéric Michel, justement, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud, a poussé la porte du restaurant de Romuald de Royer. Ça s'appelle Mani Ajaccio. Romuald de Royer, c'est un chef que je suis déjà allé voir il y a très longtemps. Il avait le Lido à Propriano. C'est un chef créatif qui est vraiment amoureux des produits de son île. Et écoutez bien, il nous donne son truc pour cuisiner une belle brouillade d'œufs aux oursins.
Ah, ça, c'est bon.
Je peux casser mes œufs, 2 à 3 œufs par personne. Alors je sale et je poivre et on attaque la plus importante des étapes. On va monter les œufs en brouillade. Donc ça fait mal au poignet, mais la différence, elle se fait là. Je pense qu'on en a pour 2-3 minutes. Vous allez voir, ça double, ça triple de volume. Il faut penser à déglacer avec un tout petit peu de crème et une noisette de beurre. On refroidit l'appareil. Les œufs se font en 2 étapes pour cette recette. La brouillade en elle-même, le jaune confit. Il faut prendre des œufs frais. Il faut les mettre au moins 24 heures entiers au congélateur dans leur coquille. Donc là, vous voyez, je vous les ai fait hier pour notre recette aujourd'hui. On va les écaler et les mettre dans de l'eau tempérée jusqu'à ce que le blanc se dissolve un petit peu et que le jaune, on puisse le récupérer en enlevant les filaments blancs qui sont autour et les déposer après dans une petite casserole avec un petit peu d'huile pour pas que ça accroche. Et en fait, on s'apercevra tout à l'heure pendant la recette que le jaune est confit par le froid.
C'est une technique de chef étoilé, mais c'est facile à faire.
Tout le monde peut faire cette recette. C'est ça qui est génial. Et on va pouvoir passer au dressage. Je dresse dans le fond de l'assiette ma brouillade. Je dispose mon jaune d'œuf confit. J'ai gardé quelques lamelles d'oursin pour les disposer comme ça sur le côté. Et voici une belle expression de la brouillade d'œuf, de l'œuf oursin, comme on l'appelle chez nous.
Eh ben c'est beau ça. Merci Romuald de Royer. Ça peut paraître compliqué, mais réécoutez le podcast de l'émission pour bien comprendre ce qui se passe.
On va l'écrire.
Et vous retrouverez la recette sur europe1.fr. C'est vrai que c'est intéressant, son œuf congelé qui va donner un jaune confit, comme il le dit. Hein.
Alors c'est vraiment surprenant. J'ai jamais essayé, mais je crois que je vais me mettre 6 œufs au congélateur tout à l'heure en rentrant.
Ça vaut le coup d'essayer. Et puis des œufs frais pour faire la brouillade. Vous avez compris, il y a des œufs frais et des œufs congelés. Et puis de belles langues d'oursins. Et si vous aimez les oursins nature, vous avez le droit aussi sur la brouillade.
Sur une petite
à la cuillère, à la cuillère.
C'est bon à la cuillère, oui.
Chaque samedi, on répond aux questions que vous posez sur le répondeur au 3921. Eh bien, Chantal Goya aussi a des questions à nous poser. On sera là pour y répondre juste après ça. Bon samedi midi.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Première chanson écologique, hein, quand même.
C'est vrai.
Oui, 77.
Première chanson écologique, elle a raison. Elle a garé son soulier qui vole devant Europe 1. Chantal Goya est notre invitée ce samedi à la table des bons vivants. Alors, c'est la première chanson écologique, Chantal, mais moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez le lapin en cuisine?
Je sais que c'est pas mal, mais...
Ou le chasseur.
Lapin chasseur. Oui, mais c'est compliqué pour moi, hein.
C'est compliqué.
Ben oui.
Les pauvres enfants, et de toute façon, les enfants ne mangent plus de lapin aujourd'hui.
Non, c'est vrai.
Pas compliqué.
C'est vrai. On voulait faire une campagne là-dessus un jour, je me disais, vous êtes complètement fou. Vous allez perdre votre temps et votre argent.
Ah ben ça, c'est sûr. Vous êtes en tournée dans toute la France, au Palais des Congrès en octobre prochain. Vous avez besoin de vitamines, Chantal Goya. Alors,
oui.
On vous a trouvé un fruit exotique que vous aimez.
Oh, je vois d'ici le mangoustan.
Le mangoustan.
Vous vous rendez compte que ça, c'est rare de voir ça? C'est la saison, hein, je crois.
C'est la saison.
Oh là là.
Parlez-nous de ce fruit, alors.
Ce sont des petits quartiers qui sont blancs à l'intérieur, comme des...
C'est une grosse coque, hein,
une grosse coque rouge qui est dure. Et à l'intérieur, il y a des petits quartiers qui sont blancs et c'est très, très fin. Je pense que j'ai dû en manger au Vietnam quand j'étais petite.
C'est pour
parce
ça.
Que je retrouve un goût.
À l'île Maurice aussi.
À l'île Maurice, j'y vais tout le temps parce que mes petits-enfants sont mauriciens en plus. Leur maman est mauricienne.
Donc voilà, le mangoustin vient de l'île Maurice aussi.
Là là,
et
oui,
c'est vrai que si vous le trouvez au rayon fruits exotiques de votre grand magasin ou alors chez votre primeur,
oui,
ça vaut le coup d'essayer.
Il y en a
chez le primeur, c'est la saison, donc c'est pour ça.
Mon épicier au coin de ma rue, il les a, ça y est.
Et oui, quand c'est exotique et que ça pousse à l'autre bout de la planète et que ça pousse pas chez nous.
Une fois de temps en temps, bien sûr.
Pas de complexe, on peut y aller une fois de temps en temps. Vous êtes une bonne cuisinière. Vous nous le disiez, Chantal Goya.
Non, je suis.
Vous êtes modeste. Franchement, moi, j'ai des dossiers.
Au début, c'est un peu bizarre ce que je faisais.
Je peux même vous dire que vous êtes cuisinière à domicile aussi.
Oui.
Vous vous souvenez de ça? D'avoir fait la cuisine à domicile chez des gens?
Comment ça? J'ai fait un pot-au-feu, non?
Non, vous avez fait des soupes de poireaux avec Raphaël Mesrahi.
Ah, mais oui, c'était comique, ça.
Et vous faisiez du porte-à-porte et vous alliez chez les gens faire une soupe
et
de poireaux.
Ils étaient enchantés de me voir alors que les autres se faisaient virer. Et moi, oh, qu'est-ce qu'on est contents.
Eh bien, écoutez, on a le son que Raphaël Mesrahi nous a gentiment donné.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Je suis Chantal Goya.
Ah, bien.
Vous allez bien? On voulait vous demander si ça vous faisait plaisir que je vous fasse une soupe aux poireaux.
On en achète tout fait, nous.
Je vous enlève le bout du poireau, là, parce qu'ils nous ont pris des feuilles.
Et puis, c'est comme ça qu'on les fait.
Attends, est-ce qu'on vous aide? Eh bien, écoutez, si vous voulez, moi, je vous fais des poireaux très courts. Hein.
Alors, c'est très bon.
C'est brûlant. Attention, c'est très, très chaud.
Ce matin, un poireau est tombé dans l'eau.
Eh ben voilà.
Avec Raphaël, c'était génial, parce que tout le monde jouait le jeu et moi, alors là, pour ces trucs-là, je suis ravie. Il y a des fois où il faisait un journaliste et puis.
Oui, j'ai une interview décalée, bien sûr.
Mon pauvre, je vais vous aider, c'est pas grave. Il y en a qui l'engueulaient. Moi, j'étais content, je voulais l'aider. Toujours.
Alors, si vous aimez l'univers de Raphaël Mesrahi, il sera le 5 mai à l'Olympia.
Ah oui.
Avec un petit jeune qui débute en première partie, qui sera Laurent Gérard, d'ailleurs.
Ah bah voilà, très bien.
Vous avez vécu des repas d'exception, Chantal Goya, et j'ai entendu parler d'un dîner avec la famille Chirac.
Oui, alors là, c'était le bouquet. Ça, c'est mes débuts où j'étais pas vraiment. Enfin, je savais pas trop bien faire la cuisine, j'avais pas le sens des proportions. Alors donc, on dîne à la maison. Mon voisin, quand il était maire de Paris, c'était Jacques Chirac. Très simplement, je lui dis, venez boire un verre à la maison.
Chantal.
Oui.
T'es de Chantal.
Ils ont tellement ri et parlé jusqu'à minuit qu'il en avait oublié toutes les motions de censure à la Chambre des députés. C'était trop tard, donc il a pas pu y aller. Mais par contre, je lui ai dit, est-ce que vous venez dîner avec Bernadette à la maison? Oui, bien sûr. Alors j'ai invité des amis, donc mon grand copain, qui était un ami, Thierry Luron, Luc Fournol, qui était donc journaliste à Jour de France, et comme c'est un fin cuisinier, il m'a dit, je vais aller en cuisine voir ce que tu as préparé. Et je lui ai dit, j'ai acheté ça pour l'entrée, je crois que c'est du foie gras, des choses très 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 bonnes. Et il m'a dit, montre-moi le plat principal, et je lui monte un bar. Je lui ai dit, mon poissonnier m'a donné un bar qui est magnifique, regarde, il m'a dit, mais c'est quoi ce bar-là? Mais c'est pour 4 personnes, on est quand même 10. Je lui ai dit, oh, mais ça va être épouvantable, dit, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Alors je lui ai dit, comment tu vas faire? Il a attrapé le bar, il a coupé au milieu, il a pris de la mie de pain avec du lait, il a mélangé tout ça, ça a fait une espèce de chair poisson, il t'a remis tout ça au milieu, il a remis la tête d'un côté, la queue de l'autre, et on avait un bar de, qui était pour 10.
Un grand bar de ligne.
Oh, puis tout le monde dit, qu'est-ce que c'est bon, oh là, c'est magnifique, ben dis donc.
Alors à propos de cuisine, c'est l'heure de retrouver l'une de vos questions enregistrée au 39-21.
Bonjour Laurent, c'est Maggie du Puy de Dôme. Après une absence imprévue, je retrouve dans mon frigo 6 œufs qui arrivent en date limite de consommation. Je suis seule pour les consommer. Que pouvez-vous me conseiller pour les utiliser? Merci.
Merci Maggie. Il y a plein de choses à faire.
Je vais mettre au congélateur pour faire des jaunes confits.
Bah oui, tiens, pour faire la brouillade d'œufs, exactement, de Romuald de Royer qu'on vient d'entendre. Des œufs durs, bien entendu.
Bah oui.
Les œufs mollets, moi j'aime bien ça.
Ah oui, moi aussi. Je mets des œufs dans les petits plats qui vont au four.
Oui,
avec
les petits œufs, les petits ramequins.
Oui,
voilà,
petits
ramequins. Façon œufs cocottes, voilà. Bien entendu. Les œufs mollets, c'est bien pour les mettre aussi dans des poireaux qu'on a fait cuire en papillote, par exemple.
Oui,
j'ai fait ça à la télévision la semaine dernière et ça marche très bien.
Les œufs meurettes, voilà.
Les œufs meurettes aussi avec du vin.
Des œufs mimosa.
Des œufs mimosa aussi.
Et des gâteaux. Une belle crème caramel. Alors là, on a besoin d'œufs dans une crème caramel. Oui. Maggie, faites une crème caramel. Là, vous allez voir que vos œufs, ils vont tous y passer. Une question peut-être, Chantal Goya, sur laquelle on pourrait vous aider en cuisine?
Des fois, je n'ai pas trop les proportions de ce qu'il faut faire. Moi, je sais que ma grand-mère faisait un riz au lait formidable. Alors, elle m'avait expliqué, tu mets très peu de cuillères de riz au fond d'un plat qui va au four, un plat en pyrex. Et tu mets du riz, tu mets du lait, tu mets du beurre et du sucre. Bon, mamie, elle savait faire ça très bien en 5 minutes. Moi, je l'ai fait, mais attends, j'ai eu un machin tout pâteux. Je dis, mais c'est quoi cette bouillie? C'était épouvantable. Mais il y a une proportion, j'ai oublié.
Alors, c'est 8 fois. Et c'est 8 fois le volume de riz en lait. Donc, si vous avez un verre de riz, c'est 8 verres de lait. Voilà. Et puis, effectivement, du sucre. Alors, ça, c'est un peu en fonction de nos goûts. Un beau bâton de vanille qu'on a gratté.
Voilà.
Et puis, on laisse mijoter ça tranquillement.
Voilà. Et ça
jusqu'à
sent bon.
Jusqu'à temps que tout soit absorbé. Le riz va aussi relarguer un petit peu de son amidon qui va finir de lier le lait qui reste dans le fond de la casserole. Et vous avez un riz au lait parfaitement crémeux.
Et on met du beurre. On met un peu de beurre aussi.
Et un petit, beurre, un petit peu de beurre à la fin, bien sûr, pour rendre ça encore plus.
Et ça fait bien doré et ça sent très bon dans la maison.
Voilà.
Et c'est encore la saison des clémentines. Moi, j'aime bien mettre des clémentines à l'intérieur.
Ah oui, c'est une bonne idée.
Ne bougez pas, les amis. On revient dans un instant avec les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Il s'y connaît en riz au lait, mais il s'y connaît aussi en vin. Et il sera là avec nous. Et Anne-Laure Femme aussi, qui est à table.
Je suis toujours là.
Et on va déguster de belles choses. Vous allez voir avec Chantal Goya. À tout de suite sur Europe 1.
À table sur Europe 1.
C'est délicieux.
Remarquable. Laurent Mariotte.
Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait.
Valérie Lemercier. Dernier moment à table avant le journal de midi et demi. Petit rituel, on ne se quitte pas sans trinquer avec notre invité. Chantal Goya est avec nous ce samedi. Vous êtes née en Indochine, on le disait, Chantal Goya. Vous avez grandi à Paris et dans les Vosges. Et aujourd'hui, vous aimez vous retrouver dans la Brenne, qui est un parc naturel situé dans l'Indre. Qu'est-ce que vous faites là-bas dans votre maison de Châteauroux? Vous cuisinez? Vous faites des confitures?
Oui, on fait la cuisine, on fait des confitures, on fait des. On va chercher à côté de la bonne huile d'olive, qui est chez un spécialiste qui est formidable.
De l'huile d'olive dans le centre de la France?
Vigan. Vigan, il habite dans mon village.
Mais oui, mais j'y suis allé, l'huile riz Vigan. Alors ça, voilà.
Il y a
là,
tout. Hein.
Pour le coup, on va faire de la pub, mais alors ils font des huiles fantastiques. Une huile de noix première pression à froid.
Oui, fabuleux. Noisette, colza, noix de coco.
Cameline,
voilà.
Et ça, c'est des huiles que vous pouvez trouver facilement partout en France, effectivement.
Oui, c'est vrai.
C'est une huilerie familiale.
Oui, familiale, c'est ça qui est bien.
Alors, tous les jours sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé. On assiste depuis des semaines aux incendies qui ravagent l'Australie. On en parle beaucoup à l'antenne. Et pour vos 2 minutes du vin, Olivier, vous nous faites un point sur la situation des vignobles et du vin en Australie.
Bah oui, il n'aura échappé à personne, malheureusement, que l'Australie a vécu un drame terrible, un drame humain, un drame pour la flore, un drame pour la faune. Alors, c'est évidemment, le vignoble à côté de ça, ça ne pèse peut-être pas grand-chose, mais quand même, les vignerons ont été très, très, très durement touchés. On estime qu'il y a à peu près 1% du vignoble australien qui a été détruit ou très touché par les incendies. Ça représente 1400 hectares sur les 14 000 du pays. C'est vraiment au-delà d'être significatif quand même.
Parce que même si l'Australie, on va dire quoi, c'est 14 fois la France, ça représente vraiment des parcelles et des terres pour nos amis australiens.
Bien sûr, et puis ça ne s'est pas fait de manière égale. Vous avez des gens qui ont tout perdu, des vignobles qui ont totalement disparu, vignes brûlées, les caves, les chais. C'est par exemple le cas du vignoble d'un Français, un Jacques Lurton, sur Kangaroo Island, qui a tout perdu. Et puis beaucoup d'autres vignobles ont été affectés, notamment par les fumées.
Quels impacts elles ont justement, alors, les fumées sur la vigne, sur les raisins?
Ben vous savez, là, on est pratiquement à la période des vendanges en Australie, puisque l'été austral est inversé. Et bien, les fumées, elles se sont incrustées finalement dans les grains de raisin, elles se sont déposées sur les pots, et tous ces raisins qui ont été noircis, imprégnés par les fumées, ne sont malheureusement plus vinifiables, il va falloir les jeter.
Donc ça veut dire qu'on va, même s'ils sont rares, on le sait, mais on ne va pas voir de vin australien l'année prochaine quoi, en France.
Vous savez, on consomme très peu de vin australien en France. Il y en a un petit peu, il y a quelques importateurs. Sauce World Wine, par exemple, qui est spécialiste des vins, notamment australiens, mais tous les vins de l'hémisphère sud. Ils vont probablement avoir un petit peu de difficulté à s'approvisionner. Mais il faut savoir que les Australiens, ils exportent leur vin dans de nombreux pays. C'est le 4e pays exportateur de vin, notamment sur la Chine et sur les marchés anglo-saxons. Donc pour eux, il va y avoir un impact très fort. Mais quand même, même si on n'a pas beaucoup, j'ai ici en studio une bouteille de vin australien à partager avec vous.
Alors, est-ce qu'on le connaît mal, ce vignoble? Expliquez-nous ce vin. Pendant que vous parliez, j'ai bu une gorgée.
Je vous laisse déguster.
Il est très agréable, il est charpenté et fruité à la fois, on pourrait le décrire comme ça ou pas?
C'est des vins solaires, c'est des vins assez puissants. Alors là, il s'agit d'une Syrah. Il faut savoir que le vignoble australien, on date sa création. C'est 1788, ce sont les colons anglais
qui,
au moment où ils se sont installés là-bas, avaient apporté avec eux des pieds de vigne, des pieds de vigne européens. Donc on va retrouver de la Syrah, qui est un cépage assez dominant là-bas, du Merlot, du Cabernet Sauvignon, mais aussi du Riesling ou du Chardonnay. Et c'est vrai que c'est pas la même expression qu'une Syrah qu'on va trouver dans la vallée du Rhône, par exemple.
C'est une Syrah, celui-là, là, qu'on
voit.
Voilà,
exactement. Un côté très fruit mûr, beaucoup d'opulence, mais en même temps une certaine finesse. Alors là, il s'agit d'un vin qui s'appelle le Grand Burge, d'une région qui s'appelle la Barossa Valley, qui est située dans la région d'Adélaïde, en réalité. Oui, c'est mûr, c'est puissant.
C'est mûr, mais il y a un goût que j'arrive pas à identifier, qui est un peu spécial.
Alors, souvent, on trouve dans les vins australiens un petit côté un peu mentholé, un petit peu eucalyptus.
Ah, c'est drôle, ouais.
Et alors, c'est parce que, tout simplement, là-bas, il y a énormément d'eucalyptus, et on pense qu'il y a une espèce...
Voilà,
exactement. Et les saveurs de l'eucalyptus qui sont présentes dans l'air, eh bien, elles vont marquer un tout petit peu les vins. C'est souvent un marqueur aromatique des vins australiens, ce côté un peu frais, un peu mentholé, un peu eucalyptus.
Eh ben, on vous mettra les références sur europe1.fr et il y a un site qui s'appelle Comptoir des vins d'ailleurs. Hein,
oui,
c'est
par
ça
exemple, sur lequel vous pouvez trouver des vins australiens, notamment cette cuvée qui vaut, je crois, une quinzaine d'euros.
Eh ben, merci beaucoup.
Moi, je vais chanter pas loin bientôt. Je vais chanter à Tahiti et Nouméa.
Ah, quelle chance,
Badi. Le 24 mars.
On peut venir avec vous.
Ah ouais,
venez.
Vous nous prenez en soute.
Je vous mettrai en lapin et en chaboté, il n'y a pas de problème.
Chantal Goya est notre invitée.
Bah, moi, je ferai de lapin, tiens.
Et voilà. C'est l'heure, ouais, ça, bon, on vous cuisinera. C'est l'heure de vous passer sous le grill du questionnaire des bons vivants, comme le lapin, Chantal. C'est parti.
On y va.
Quel est le goût de votre enfance?
Ben, j'avais dit les tartes aux Mirabelles et... les myrtilles, les fruits des
Vosges.
Dans les Vosges. Oui, bien sûr.
Le premier plat que vous avez cuisiné, Chantal Goya?
Ah, moi, c'était des endives au jambon.
Oh, j'adore ça.
Oh. Oui, c'est bien.
Ah, avec la béchamel et
oui,
tout.
Oui, il faut bien. Oui, oui, tout est ça, c'est par étapes. Hein.
Oui, oui.
D'abord les endives, on met le jambon, un
on
bon
les
jambon,
roule,
on les
ben
roule.
Oui.
Une
bravo.
Béchamel, du gratin, enfin un peu de gruyère dessus.
Votre plus beau repas, Chantal Goya?
Ah, ben moi, c'était chez Bocuse, il était là. Puis on était avec Jean-Jacques, des amis.
C'est vrai qu'un.
Mais il y a des grands chefs, on peut pas nommer, ils ont tous été Rebuchon aussi. Le premier jour où j'ai dit « je vais monter sur scène à l'Olympia, je vais chanter », c'était chez Rebuchon.
Ah, c'est génial.
Et Jean-Jacques me dit « tu vas chanter, mais où ?» J'ai dit « à l'Olympia ». Il me dit « mais ça va pas, non, Jacques Brel, Edith Piaf, tu vas pas quand même te mettre dans cet endroit qui est mythique ». Je dis « mais c'est pas grave, j'irai sur le côté, on me mettra dans un petit coin hein. ».
C'est là que Bruno Cocatrice vous a dit que vous aviez inventé le musical pour
exactement,
enfants. En fait,
hein. Exactement, il a dit à Jean-Jacques « écris-lui des spectacles, elle vient d'inventer le musical pour enfants, je n'ai jamais vu ça ». En plus, moi je parlais au public comme ça, comme je vous parle. Hein.
Votre pire repas, Chantal Goya?
Mon pire repas, qu'est-ce que c'est? Bah moi, oui, c'est vrai, les plats congelés, tout ça, c'est compliqué.
Oui.
Il y a des bonnes adresses, mais après...
Les plats préparés, vous évitez quand même,
oui.
Vous cuisinez un petit
oui,
peu.
Oui, hein. Ah bah oui, moi je fais pas
bah
moi
oui. Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer, Chantal?
Moi, j'ai jamais mangé du lapin, hein. Je ne mangerai jamais. Je ne mangerai jamais.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte?
Oh bah moi, mes tomates, mon huile d'olive et une bonne salade de tomates. Et puis, je trouverai dans la mer des petites choses qui vont avec.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Chantal?
Bah, déjà, des gens qui aiment bien me dîner, qui aiment bien me boire, qui aiment bien manger. Bah, venez tous
les
amis, la famille, voilà. Déjà, nous, on est déjà nombreux.
Vous êtes une grande famille avec vos enfants et vos petits-enfants.
Oui,
ça fait du monde. Hein.
Je compte, on est neuf. Quand on part en vacances, il faut neuf lits.
Ouais, c'est joli.
Ça, je compte. Je dis, on est neuf, alors débrouillez-vous.
Votre adresse secrète?
Ma Bourgogne, ils sont sympas là-bas, Place des Vosges.
Ah, c'est un petit bistrot de quartier.
Oui, et puis il y a surtout à côté un très bon chef, là, pas loin.
Ah, bah il y a l'Ambroisie
voilà,
de Bernard Paco.
L'Ambroisie.
Ah, elle connaît les bonnes tables, Chantal Goya.
Attendez, quand je me gare en voiture, je les vois tous, je rentre dedans, je me demande la carte, je fais des bonjours, c'est Chantal Goya, et puis il m'indique tout ce qu'il faut. Ah non, mais c'est sympa, oui.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné?
Ben des lasagnes hier soir, on va dire.
Eh ben oui, vous l'avez dit, oui.
Voilà.
Et le mot de la fin, F-A-I-M, Chantal?
Ben, qu'est-ce que c'est que le mot de la fin? Je suis toujours faim. Non, mais j'ai un copain qui m'appelait, qui aimait bien m'inviter à dîner, et Jean-Jacques aussi. Alors, est-ce que tu es là? Oui, j'ai faim. Il m'appelait J'ai faim, et Jean-Jacques, j'ai soif.
Eh ben, on avait J'ai faim avec nous, et J'ai soif, et le bienvenu quand il veut. Merci, Chantal Goya, d'être venue à la table des bons vivants. Vous êtes en tournée dans toute la France
oui,
avec
puis j'ai
le
mon DVD qui vient de sortir.
Le DVD, exactement.
Avec un making-of très joli,
oui,
très
absolument.
Drôle, voilà. Avec Jean-Jacques.
Pour ceux qui ont des cœurs d'enfants, qui ont des enfants, des petits-enfants,
ouais,
le soulier qui vole.
C'est tout le spectacle.
Et vous serez au Palais des Congrès de Paris en octobre.
Oui.
Merci, bonne vivante, Chantal Goya.
Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à Lucie Lescourou, la rédactrice en chef de cette émission. Julien Amat à la rédaction. Merci à Jean-Luc Arblade
Merci
à la
vous
réalisation.
Tous.
Agnès Vaudin à la programmation. Merci Anne-Laure Femme.
Merci
Olivier Pouls.
Bah merci.
Marion Sauveur.
Bon week-end.
Passez un bon week-end, hein, vous le savez.
Tous
c'est
ces
le
bons
week-end.
Conseils sont magnifiques.
Ben oui, faites le marché, la cuisine
et
le reste. Et la semaine prochaine, nous serons en direct depuis le Salon de l'agriculture.
Ah,
il y aura peut-être des lapins aussi.
Manger, hein.
Bon week-end, faites le marché. Et bon week-end, Justine. À bientôt.
Bon week-end. Laurent, en attendant le salon de l'agriculture, justement, eh bien, votre journée continue sur Europe 1. Dans quelques minutes, ce sera le journal de la mi-journée présenté par Florence Cohen ce samedi. Et puis à 15h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet et la comédienne Anne Parillo pour Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Alors restez avec nous surtout, il est midi 27.